aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. On vient à toi, Seigneur, on te remercie de ce temps béni dans ta maison. Merci qu'on est rassemblés en ton nom, Seigneur, parce que c'est toi qui as la prééminence. C'est toi, Seigneur, qu'on veut élever, exalter au milieu de nous. Et c'est, Seigneur, sur toi qu'on porte les regards. On s'attend à toi. Tout de toi, Seigneur, rien de nous. Et c'est notre désir. Guide-nous, Esprit du Dieu vivant, sur ce que tu as pour nous chacun ce matin, individuellement, collectivement. Et merci que tu es fidèle. Tu as, Seigneur, des trésors, des bienfaits, toutes sortes de belles choses, Seigneur, qu'on a simplement à s'approprier par la foi. Donc, on vient à toi, Seigneur, non seulement en s'attendant à toi, mais en s'attendant à répondre à ce que tu as pour nous, Seigneur, ce matin. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je le disais, c'est notre deuxième message sur le thème de Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Jésus est notre secours, on pourrait dire notre sortie de secours ici dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand ça nous dit que, bon, les tentations qui nous sont survenues, Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Puis là, il faut comprendre, je ne vais pas décortiquer en détail ce verset-là, mais je l'ai déjà prêché à d'autres occasions, mais ça dit qu'avec la tentation, il a préparé le moyen d'en sortir. Avec, c'est dire en même temps. Quand il y a la tentation, au même moment, on a la sortie de secours qui est là. Et la sortie, c'est pas une méthode, c'est pas une chose à faire, c'est une personne vers qui se tourner. Il est la sortie de secours. Il est celui qui nous délivre de toute tentation. Mais j'aimerais juste vous amener ici, ça dit avec. Là, des fois, on dit, hey, mais ça, c'est plus fort que moi, je suis tenté au-delà de mes forces. Ben ça, c'est quand on passe à côté, tu sais, que quand le Seigneur... Il y a la tentation, puis là, si on ne prend pas la sortie de secours, ben là, après ça, ça devient bien plus dur parce que là, on est pris par nous-mêmes. Puis souvent, c'est pour ça qu'on... En fait, c'est pour ça qu'on cède à la tentation, parce qu'on n'a pas pris la sortie de secours. C'est pas la fin, puis je veux dire, la grâce de Dieu est toujours là, mais c'est ça. Ici, il y a vraiment une dynamique dans ce verset-là. Je l'ai développé dans d'autres messages. C'est pas le sujet du message d'aujourd'hui, mais je veux... Un peu résumé, la semaine dernière, on a vu que on a dans la vie chrétienne ce combat-là qui consiste à, dans le fond, être délivré de nous-mêmes. Souvent, on est notre pire ennemi. Hein? On a nos raisonnements, nos pensées. Là, il arrive des choses, puis là, le petit hamster, il part, puis là, ça tourne, puis on se fait des scénarios, on s'imagine ci, on s'imagine ça, on se compte des peurs, puis on se croit. Alors que le Seigneur dit juste, tourne les regards vers moi. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais c'est ça, c'est nos tendances. Puis, dans le fond, vous allez voir, il y a une suite avec ce qu'on a vu la semaine dernière, aujourd'hui, puis même la semaine prochaine. La semaine dernière, puis aujourd'hui, on a commencé en se posant la question, OK, où est ma confiance? Qu'est-ce que je dois croire pour expérimenter la grâce du Dieu qui me secourt de moi-même? On a vu la semaine dernière deux éléments. En tout, on a cinq choses qu'on considère dans les deux messages. On a vu deux, il en reste trois à regarder. La semaine passée, on a vu que c'est tellement important qu'on croit à ce que Dieu est. Vous vous rappelez, j'ai dit, ce qu'on croit sur Dieu, ça va déterminer tout le reste pour nos vies. Si je crois que Dieu est bon, qui m'aime, qui est amour, de ça va découler. Si je pense qu'il est savant et qu'il me regarde avec une disposition rigide, mais je vais agir en conséquence de ça, je vais avoir peur et tout ça. Comprenez-vous, de un et de l'autre va découler deux voies tout à fait différentes dans ce que je crois par rapport à ce que Dieu est, ce que je suis en Jésus-Christ. Si vous me posez la question, allez voir Éphésiens 1. Ben, 1, 2, 3, là, mais Éphésiens 1, puis il y a tellement de vérité dans tout ça, mais bon. Je vous invite à réécouter le message de la semaine dernière. À l'écouter si vous l'avez pas écouté. Vous pouvez le réécouter aussi, mais c'est ça. Parce que vraiment, les deux vont ensemble. Donc là, on a vu deux éléments là, à croire. D'abord, croire ce que Dieu est, croire ce que je suis en Jésus-Christ. Puis là, on va voir, toujours dans la suite, là, sur ce qu'on voit pour expérimenter ce Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. croire, ok, on est dans le domaine du croire. La semaine prochaine, on va être, à partir de la semaine prochaine, je dirais, parce que je pense qu'on aura plus qu'un message aussi là-dessus, sur ce que je fais à la lumière de ce que je crois. Mais là, on va être le fondement de ce que je crois. Et c'est tellement important, où est ma confiance? Troisième élément, à croire pour expérimenter le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Ce que je crois par rapport à ce que Dieu a fait de moi. Ce que Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi son enfant, Dieu a fait de moi une nouvelle création. Il m'a régénéré. En tout cas, on a bien des affaires à développer là-dessus, mais j'ai parti au verset 13 parce que ça nous parle de la tentation, le moyen d'en sortir. Et quand on comprend ça, on voit la vie différemment. Parce que Dieu a fait de moi son enfant, je lui appartiens. Il est ma délivrance, il est ma paix, il est ma force, il est mon secours. Donc, il est celui qui me secourt de moi-même. Et ce qu'il a fait de moi, c'est son enfant bien-aimé. Je suis favorisé dans le bien-aimé. Et savez-vous quoi? Pour le monde, ça, c'est bizarre. Parce que les gens vont dire, confie-toi en toi-même. Tu as la force en toi. OK? Puis bon, pour les chrétiens, à cause de ça, on est bizarre pour le monde. OK? D'ailleurs, la Bible dit qu'on est des étrangers et des voyageurs sur la terre. Hein? Ça nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mais savez-vous que même pour des chrétiens, des fois, on est bizarre parce que si on va plus loin avec une vérité qu'on développe, une grande vérité de notre union avec Christ qu'on développe depuis quand même assez longtemps, et c'est pas mal riche qu'on a pas mal de temps à vouer à ça. Lorsqu'en tant qu'enfant de Dieu, on vit et on croit vraiment à ce que la Bible nous dit sur notre union avec Christ, souvent on ne fit pas. On ne fit pas dans le monde, puis on ne fit même pas des fois dans le monde chrétien. Parce que lorsqu'on sait et qu'on voit, tu sais, quand ça nous dit dans la Bible, ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste une affaire théorique, là, mais ça dit que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieux Guillaume n'est plus. C'est maintenant, vous regardez, à Guillaume 2.0. Nouveau en Jésus. Non, mais c'est vrai. Le vieux homme a été crucifié. J'ai pas besoin de mourir à moi-même. Je suis déjà mort avec Christ. Quand Christ est mort sur la croix, je suis mort avec lui. Vous êtes un enfant de Dieu, c'est un fait sur vous. Tout comme quand Adam a péché, vous avez péché avec lui. Ben, de la même manière, quand Christ est mort sur la croix, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes mort aussi avec lui. OK? Puis en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, quand il est ressuscité des morts, qui a vaincu la mort, vous avez aussi été participant de ça. Vous êtes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection. C'est pour ça maintenant qu'on croit et qu'on se voit comme étant mort au péché et vivant pour Dieu. Et évidemment, on agit en conséquence. Maintenant, pourquoi on livrerait nos membres comme des instruments d'injustice alors qu'on est mort au péché? On livre nos membres comme instrument de justice à Dieu parce qu'on a été racheté à un grand prix. Et ça, le monde trouve ça étrange. Ça nous dit aussi dans 1 Pierre au chapitre 4, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. » Ça, on peut s'attendre à ça du monde. Pourquoi? Parce que on se définit pas... Tu sais, on est des étrangers voyageurs sur la terre. On se définit pas par les mêmes choses que le monde. Puis là, je vais aller sur quelque chose, vous allez voir. C'est matière à réflexion. Qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce que je trouve important? Qu'est-ce que je recherche? Le monde va se définir selon leur apparence physique, selon leur intelligence, niveau d'éducation, selon leurs possessions matérielles, leurs relations interpersonnelles, tu sais, ils connaissent des big shots ou non, puis tout ça, selon leur travail, leur position d'autorité, leurs passions, leurs désirs qu'ils ont réussi à accomplir dans leur vie, l'honneur et l'admiration qu'ils ont d'autrui. Et ça, on voit ça dans le monde, mais dans le monde chrétien, on peut mettre ces choses-là puis rajouter... Ben, les accomplissements spirituels. Alors, moi, je suis discipliné spirituellement. Hein? J'ai du succès dans le domaine spirituel. Mais tout ça, c'est s'identifier à ce que nous faisons et non pas à ce que Dieu a fait de nous. C'est là tout le centre de la question. Et là, maintenant, je vais donner une application par rapport à ça. Comment je me définis? Pour la majorité des chrétiens, quand on parle... Tu sais, on parle ici de la tentation, victoire sur la tentation, puis sur le péché. Ou pour le dire autrement, une vie de sainteté, une vie qui plaît à Dieu. Souvent, quand on va parler de ça dans le milieu chrétien, on va dire, ben, la sainteté, là, une vie qui plaît à Dieu, c'est dire non à mes désirs. OK? Et oui à ceux de Dieu. Savez-vous que ça part fondamentalement d'une erreur concernant notre union avec Christ? Parce que si je suis mort au péché puis vivant pour Dieu, mes désirs profonds là, d'enfant de Dieu régénéré, ce sont ceux de Dieu. C'est pas dire non à mes désirs, c'est dire oui à mes désirs. Parce que on chante, là. Est-ce que quand vous chantez, puis Dieu, je te désire, j'ai hâte d'être dans ta présence, je te veux, toi, est-ce que vous faites juste dire ça parce qu'un chrétien, ça dit ça, ou ça vibre au fond de votre être? Ça vibre au fond de votre être parce que c'est ce que vous êtes fondamentalement. Vous n'êtes pas un pécheur par nature, vous êtes saint par nature, par la grâce de Dieu, parce que vous êtes mort au péché et vous êtes maintenant vivant pour Dieu.
Amen.
Ça, c'est tellement fondamental et c'est très peu compris. Puis c'est notre identité, là, c'est tellement... Je suis pas un pécheur sauvé par la grâce, je suis un saint qui est maintenant... Ça y arrive malheureusement de pécher. Le péché est encore, on ne renie pas le péché, mais mon identité, c'est ce que Dieu a fait de moi. Et si vous n'êtes pas convaincu, allez voir dans Corinthiens, il faisait pas mal dur les Corinthiens, Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, il dit aux saints qui sont à Corinthe. Puis là, c'était pas parce qu'il y en avait deux ou trois dans la gang qui avaient un auréole au-dessus de la tête, c'était vraiment le groupe des enfants de Dieu qui était là. C'était des gens mis à... Saint, là, ça veut dire mis à part. Il n'était plus de ce monde, il avait été placé en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, il était maintenant racheté, sauvé. Puis Paul m'a dit, ah, les homosexuels, puis les efféminés, c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, justifiés par le sang de Christ. Il était saint, OK? Donc ça, c'est tellement important. M'identifier selon ce que Dieu a fait de moi. Parce que le monde s'identifie à ce qu'ils font. Puis malheureusement, c'est une chose qui, dans les milieux chrétiens, dans la vie chrétienne, ça décolle pas facilement. La grande tromperie, c'est justement ça. M'identifier fondamentalement comme un pécheur avec des désirs. Ben oui, j'ai des désirs pécheurs, c'est ce que je suis. Non. Tu as des désirs pécheurs parce que le péché habite en toi. OK? Parce qu'on a encore le péché, mais c'est pas ta nature, c'est l'intrus. Donc là, on va développer ça un peu plus. Ça vous tente-tu? Ou on arrête, on prend une pause, un petit café? Non? OK, on continue. Et je vous lis juste qu'un de nos saints bien-aimés qu'on aime tant, qu'on lit beaucoup dans la Bible, et regardez ce qu'il dit, puis dites-moi s'il parle comme un pécheur ou il parle comme un saint. Si ses désirs, est-ce qu'il parle vraiment, autrement dit, du fond de son cœur, ce qui vibre en lui-même? Je regarde même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça, c'est les désirs profonds d'un enfant de Dieu. Je veux tellement, là, je suis prêt à tout abandonner pour gagner cette connaissance, de connaître de plus en plus mon Sauveur parce que c'est mon plus grand trésor. Quand on est un enfant de Dieu, c'est ce qu'on est fondamentalement. C'est ce qui nous anime. Pas tout le temps, le péché est encore là, puis des fois on a refroidi, des fois, OK, mais fondamentalement dans notre nature régénérée. Les chrétiens ont une mauvaise compréhension de la sanctification parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la régénération. Si on est régénéré, ça veut dire qu'on a une nouvelle nature. Régénéré, ça veut dire nouvelle nature. Je n'ai tué une ou je n'en ai pas? J'ai-tu besoin de la faire mourir tout le temps? Non, l'ancienne est partie. J'en ai une nouvelle. C'est ma nouvelle identité donnée par Dieu. C'est ce que Dieu a fait de moi. Puis ça, c'est libérateur. Quand on croit ça, quand on le vit, on peut être vraiment nous-mêmes ce qu'on est sans être égocentrique. C'est pas être centré sur moi, c'est être centré sur ce que Dieu a fait de moi et il fait en moi. Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Tout est une question de focus. La vie éternelle, puis pas juste l'étiquette pour aller au ciel, la vie d'une qualité qui n'est pas de ce monde, ici-bas, c'est connaître Dieu.
Amen.
Puis celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie vie. Et je dirais tant au niveau vertical qu'horizontal. Parce que c'est foncièrement relationnel. La vie, c'est relationnel. Regardez, tout ce qui est en vie, c'est en... Pourquoi on dit qu'un être est vivant, il est en relation avec son environnement? Une plante, elle respire. Les petites fourmis, tu sais, ils font... Je veux dire, tout ce qui est vivant, il y a une relation quelconque avec l'environnement puis d'autres organismes vivants, bien souvent. Puis nous, on est créé à l'image de Dieu. Dieu est relationnel, puis on est créé à son image. nous sommes relationnels. Puis, là où est-ce qu'on se rend compte que, OK, comment ça que je peux être plus ou moins, mettons, aligné avec ce que Dieu a fait de moi, pourquoi des fois je l'oublie? Ben, parce que des fois je perds de vue cette relation. Je rentre dans la mécanique, tu sais, des fois dans un couple, là, on se prend pour acquis, pis ça. Ça devient comme ça avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de tellement précieux qui arrive dans notre vie, que le Seigneur appelle les épreuves, puis qui produit ce qu'on appelle le brisement. Dieu nous brise, puis il nous brise pas. Tu sais, on pense à briser, hey, c'est pas beau briser. On pense à un vase brisé à terre. Non, il brise ce qui n'est pas de lui pour faire resplendir et manifester ce qui est de lui en nous. C'est ça le processus. On est déjà racheté puis tout ça, mais Dieu forme Christ en nous de plus en plus pour nous amener à la conviction profonde et la beauté de voir que la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie.
Amen.
Et c'est comme ça que Dieu va nous conduire dans une vie où est-ce qu'on va constater, on va être convaincu de plus en plus que la vraie vie, là, c'est pas là de savoir c'est quoi que je dois faire, comment je dois faire, pourquoi je dois faire. La vraie vie, c'est avec qui. Qui je le fais, par qui je le fais. La vraie vie chrétienne, c'est une question de ma relation avec le qui des qui, le grand Dieu vivant, celui qui est le sens de ma vie. Et la futilité de la chair, lorsqu'elle est constatée, lorsqu'on se rend compte que la chair ne sert à rien, savez-vous c'est quoi le but de Dieu avec ça? Quand il nous brise, il veut juste qu'on se jette dans ses bras. Dieu est relationnel. Dieu ne nous brise pas pour dire, ah, t'as vu, t'avais don, tu fais don dur, puis regarde, pensez à Pierre, il a renié Jésus, puis c'est lui qui a rétabli le contact. Il dit, hey, tu m'as rejeté, tu m'as renié, moi je t'ai pas renié, je t'ai pas rejeté. Je t'ouvre mes bras. C'est pour ça que Dieu nous brise puis nous fait montrer comment que ça marche pas quand on essaye nous-mêmes, quand on marche sur une pilote automatique ou sur de façon indépendante avec les patterns de notre chair. Il veut qu'on trouve ça tellement précieux de vivre en dépendance à lui, qu'on voit toute la beauté de dépendre de Dieu. Donc c'est ça que ça implique. Croire à ce que Dieu a fait de moi, c'est retourner à celui qui m'a fait, celui qui m'a fait et qui m'a refait. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a régénéré pour une espérance vivante. Et il y a là vraiment un sens réel, concret, relationnel qui, par justement l'Esprit qui habite en moi, me donne des désirs profonds, une inclinaison en harmonie avec le Seigneur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est pas du fake, c'est pas quelque chose qui est imposé, ça vient du plus profond de mon être quand je suis un enfant de Dieu. D'ailleurs, vous avez une nouvelle personne qui vient de donner sa vie au Seigneur, c'est là-dessus qu'on va tabler. On n'a pas besoin de dire, hey là, tu sais, il faut que tu lises ta Bible. Évidemment, il faut que la personne voit qu'il y a des habitudes. Que, tu sais, quand on développe ces habitudes-là, ça nourrit, on veut se nourrir de l'arbre de vie. Mais ce n'est pas une chose extérieure qu'on veut animer de même. On veut faire appel. Ce désir de connaître Dieu-là, là, ben, tu vas y répondre avec les différents moyens de la grâce que Dieu nous a donnés. Mais dans le fond, ça part de ce désir-là que Dieu a mis dans la personne qui est régénérée. C'est pour ça que je crois qu'on n'a pas besoin de forcer après quelqu'un s'il est vraiment sauvé. Tu sais, des fois, il dit « Ah, il n'est pas sauvé » puis tout ça. Puis laisse Dieu démêler ça. Laisse Dieu démêler ça parce que Dieu est capable de prouver lui-même son salut. Là, t'sais. Puis, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas un temps des fois de dire à quelqu'un « Est-ce que tu es sûr que tu es dans la foi? » Tu peux avoir des fois, si on se sent dirigé à faire ça, puis c'est pas qu'on va essayer de régler la question pour nous-mêmes, mais la Bible dit, hein, « Sonde-moi, ô Dieu » ou ça dit « examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. » Mais là, ça m'amène à quelque chose d'important. OK, là, je parle que nos désirs fondamentaux sont pour le Seigneur. OK, qu'est-ce qu'on fait avec des passages qui nous parlent de nous renier nous-mêmes? Jésus qui a dit de se renier soi-même. Ben, c'est dit dans les évangiles. C'est aussi dit, le concept revient dans Corinthiens, dans Philippiens. Je vous lis par exemple De la même manière, moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. On l'a lu tantôt dans le chapitre 10, afin que tous soient sauvés. Donc, tu sais, il ne cherchait pas son propre intérêt. Aussi, ça nous dit dans Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaingloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, est-ce que le reniement de moi-même, c'est renier ma nature fondamentale? Non, écoutez bien ce que je vais vous dire. Se renier soi-même, c'est pas renier ce que je suis fondamentalement, parce que si je suis un enfant de Dieu, je suis un saint. C'est renier les désirs égocentriques de ma chair. Le combat, c'est avec la chair. Parce que je vous rappelle, quand ça nous parle dans Romains, là, de notre union avec Christ, sachant que notre vieil homme, ça c'est ce qu'on était avant, a été crucifié, c'est complété, c'est fait, afin que le corps du péché, ça c'est notre chair, le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Dieu a donné un coup fatal à notre chair pour plus qu'elle domine, pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage du péché, car celui qui est mort est libre du péché. OK. Là, on a déjà quand même réglé une couple d'affaires, puis comme une image vaut mille mots, je veux vous résumer mon premier point avec une simple image. Il y en a-tu qui, des journées comme ça, aiment ça prendre un bon verre d'eau froide ou aller faire une saucette dans de l'eau fraîche et tout ça? Bientôt, là, c'est notre premier jour, ça rend peut-être moins compte, mais là, les journées chaudes d'été et tout ça. Savez-vous que la Bible nous parle de l'eau souvent, puis ça nous donne quasiment soif. En plus, quand on comprend le contexte à l'époque, puis encore aujourd'hui, le Moyen-Orient, l'eau est une denrée rare, on peut dire. C'est précieux. Et Dieu se décrit lui-même comme une fontaine d'eau vive. Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui nous parlent de l'eau vive. Ça nous communique l'idée de la régénération quand Jésus dit, lorsqu'il était à la fête, là, il se tenait debout et il s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive vont jaillir de lui. » Et dans Jean 4, avec la femme samaritaine, il parle aussi... Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Puis savez-vous, pratiquement le dernier verset de la Bible, ça nous parle aussi d'eau vive. L'esprit et l'épouse dit viens, et celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau vive gratuitement. L'eau vive, Dieu se décrit lui-même comme une fontaine d'eau vive dans Jérémie au chapitre 2, verset 13. Donc, l'image de l'eau vive de Dieu qui est une fontaine d'eau vive, c'est une image de salut, de rédemption, de la vie abondante. En fait, pour le mettre dans une image qu'on voit aussi dans les prophètes, ça parle des fois que Dieu qui déverse sa bénédiction, comme on déverse de l'eau avec un vase, OK? Je me suis amené un... propre matin. Il est beau, hein? Il vient de la Roumanie. Ah, là, j'ai dit, je ne veux pas que quelqu'un le prenne et qu'il casse les enfants. Là, pour... hey, ça, c'est précis. C'est avec ça qu'on met notre eau et qu'on met ça dans notre Berkey. Fait que Dieu, sa grâce, sa vie, il la verse comme ça sur nous. OK? Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est pas une vie qui donne dans le but de recevoir. C'est une vie qui reçoit de Dieu. Ça, là, je vous dis quelque chose, là. Vous êtes tous à dire oui dans vos bancs, là. Mais dans notre intelligence, là, on a de la misère à comprendre ça. On s'est fait dire toute notre vie, un chrétien, ça donne de son mieux, puis tout ça. Puis c'est pas faux qu'un chrétien, ça donne, puis ça donne de son mieux. Mais la question, c'est où le point de départ? On s'est fait enseigner, bien là, pour plaire à Dieu, tu donnes à Dieu, puis là, il va être content, puis les autres vont être bénis. Non, la vie chrétienne, là, c'est se mettre en dessous de la source d'eau vive, là, puis avoir notre cruche de même, là, puis dire, OK, Dieu, je reçois. Puis là, oui, c'est vrai, Dieu, c'est tellement abondant, sa vie, sa grâce, là, ça remplit, pendant l'année, ça déborde. Qu'est-ce qui arrive? Les autres autour de moi sont bénis aussi. Donc, je donne, mais ça vient pas de moi, ça vient de surplus de ce que j'ai reçu. Dieu nous a fait pour être des récipients. Puis là, après ça, les autres ont la bénédiction du surplus. Le Seigneur a montré ça à notre frère, puis moi, c'est drôle parce que hier, notre frère nous a parlé de ça dans Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est vrai, ça déprime bien des gars. Puis notre frère nous le disait aussi, mais c'est vrai, mais c'est parce qu'on ne le comprend pas. Puis là, je vais vous le dire, les femmes, si vous sentez, mis à part, regarde, c'est le même principe dans Jean 13, 34. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'idée, là, c'est pas... OK, allez, là, j'espère qu'il me reste un peu. Faut que je puisse bénir ma femme puis l'aimer comme Christ a aimé l'Église, puis... Tu sais, il y a deux ou trois gouttes qui restent. Non, c'est... Marie, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, là, comme Christ vous a aimé. Christ, là, il vous remplit, là. OK? Fait que vous, là, aimez de la même manière. Vers 16 ans, à mesure, comprenez-vous? C'est pas nous la source, c'est Dieu la source. C'est ça que le Seigneur a montré à notre frère, puis l'a partagé, puis c'est vraiment... Il n'y a pas d'hasard. C'est que... Pourquoi je peux aimer ma femme? Pourquoi on peut s'aimer les uns les autres? Parce qu'on reçoit de l'abondance de cet amour, de cette vie, puis ensuite ça déborde.
Amen.
Quelle image, hein? Quelle beauté, quelle simplicité, quelle liberté, quelle émancipation. J'ai plus le fardeau d'essayer de remplir ça avec ma bonne volonté puis mes moyens du bord. J'ai juste à l'élever à mon Dieu, à recevoir de lui l'abondance de la grâce. Ah, je veux juste vous les... Il y a un verset que j'avais jamais vu avant. Pour moi, quelqu'un l'avait caché dans ma Bible, il avait mis un scotch tape. Puis le pire, c'est que c'est dans Romains, là. Ah, je ne sais pas si je suis qualifié à vous enseigner ce matin. Romains 5, 17. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. » Là, ça parle d'Adam. « À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. » C'est notre pot, cela, là. Okay? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Évidemment, c'est pour le salut, mais c'est aussi pour toute la vie qui s'ensuit. Je suis dans Romains 5, 17. « Reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? » Donc, c'est vraiment cette idée-là de recevoir, et c'est ce qui fait qu'on peut donner. Le voyez-vous et le croyez-vous? Croyez-vous que pour être ceux qui aiment comme Jésus aime, qu'il faut aller simplement à lui? On va même développer ça un peu plus tard, mais vraiment, c'est s'arrêter là-dessus. Dieu a fait de nous ses vases pour nous remplir. Donc, croire ce que Dieu a fait de moi. Deuxièmement, et mes deux autres points sont moins longs que le premier. Mais je suis inquiété pour le temps. Priez Dieu que ne vous inquiétez pas avec ça. Il n'y a rien là. Amen. Merci, frère. Non, mais je ne veux pas faire exprès de prendre 2h15 pour prêcher, mais je ne veux pas me sentir pressé non plus. C'est tellement précieux ce qu'on considère. Hey, on est à un festin, on va prendre le temps de s'asseoir et de gérer tout ça. Ce que je crois concernant les attentes de Dieu envers moi. Oh, ça, c'est un gros morceau. Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi? Puis là, je vais vous lire deux versets, je vais vous mettre mal à l'aise, OK? Vous entendez, je vais vous mettre mal à l'aise? Parce qu'après ça, je vais vous réconforter avec la parole de Dieu. Avec la même parole qui nous met mal à l'aise, nous réconforte. Mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Ça, c'est pas pire, tu sais, ça finit bien. Mais écoutez celui-là, ça c'était 1 Jean 2.1. Maintenant, écoutez 1 Jean 3.9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » OK, là, on prêche ça, un chrétien, ça ne pêche pas. Ben, j'aimerais vous dire que l'interprétation juste de ce verset, c'est simplement ceci. Évidemment qu'il y a le péché dans la vie du chrétien. Mais quand ça parle de la semence de Dieu, Dieu là, nous a régénérés. La nature nouvelle que nous avons en Christ ne prend que plaisir à Dieu et ne pêche pas. Le problème, c'est le péché qui habite en nous. Donc, tu sais ce que Dieu a mis en nous, là, sa semence, sa vie, là, n'a pas d'inclinaison au péché, aucune. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu a mis en nous la vie même qui a la victoire sur le péché. Puis diminuez pas ce que ça veut dire. Ça veut pas dire, ah, oh, je suis au-dessus du péché, il n'y a plus de péché. Non, mais Dieu a mis en nous sa vie qui, elle, ne pêche pas. Parce que Dieu ne pêche pas. Puis Dieu nous a régénérés. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne va plus pécher dans notre vie, mais Dieu nous a tout donné. Dieu s'attend à nous à ce qu'on ne pêche pas. Bon, là, je vous ai tout mis mal à l'aise. Ouais, mais là, laissez-moi expliquer, vous allez voir. Donc, Dieu s'attend de nous à ce que nous ne pêchions pas. Puis on comprend, là, de manière habituelle, parce que ça dit ici, pratiquer le péché. Mais pourquoi? Parce que le péché, ce qu'on comprend avec notre union avec Jésus-Christ, le péché, là, c'est un intrus, c'est une anormalité, c'est irrationnel pour le chrétien. Pour le dire en bon québécois, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, le péché. Même on revient aux Corinthiens, même Paul écrit aux Corinthiens, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Ce verset-là implique que Dieu, le Saint-Esprit, à travers le message ici de Paul aux Corinthiens, prenait pour acquis que le péché n'est pas la norme pour le chrétien. C'est pas la norme. Puis je vous donne des versets qui vont dans ce sens-là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça nous parle de Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Là, quand on lit des passages de même, le péché, Dieu s'attend à ce qu'on ne pêche pas, je dis, oui, mais je le sais, je me connais moi-même, puis je suis douloureusement conscient de ce qui est dans mon cœur, de ce qui est dans ma tête, puis ma propension face à la tentation, puis c'est pas beau. J'ai pas le goût de m'en vanter, n'est-ce pas? OK? On est réaliste, là. Ça, c'est la réalité. Donc, comment qu'on réconcilie ces deux vérités-là qui semblent s'opposer, qui semblent se contredire? Bon, on a de l'aide avec Jean dans chapitre 1, verset 14, où est-ce que ça nous dit que si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Notre chair a des convoitises, hein? Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et là, on a encore une chair. Dieu s'est occupé en nous faisant mourir avec Christ de donner un coup fatal pour plus qu'elle domine, pour plus que le péché ait la domination dans notre vie. Mais la chair est encore là. Et oui, le péché est encore présent dans nos vies. Et donc, la présence de la tentation, autant extérieure qu'intérieure, sont toujours là. OK? Donc, on ne croit pas que les chrétiens ne pêchent plus, puis tout ça. Mais voici ce qui est important de comprendre. Parce que si je contemple le péché et j'y cède, je vais y tomber. C'est ce que Jacques nous dit. Mais je vais vous dire quelque chose d'important. J'ai longtemps pensé ça, puis c'était une erreur, mais j'ai longtemps pensé que, tu sais, lorsqu'une mauvaise pensée me vient, un mauvais projet, tu sais, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Puis là, pensons pas nécessairement juste à un péché évident. Des fois, ça peut être, tu sais, ma bonne idée que je veux faire, mais c'est tout du moi, là, OK? Quand j'ai ça, j'ai souvent pensé, mais particulièrement par rapport à des choses qui sont des œuvres manifestes de la chair, j'ai souvent pensé, ben si ça monte à mon esprit, ben c'est ce que je pense, c'est ce que je suis, ben c'est aussi bien d'y céder, parce que je vais bien le mettre en pratique, tant que, tu sais, c'est comme, ben là, le péché est déjà là, je suis aussi bien d'y céder. Mais ça, c'est faux. Parce que Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais pécher. Lorsqu'on est exposé à la tentation, si on se l'approprie, on fait l'erreur de s'identifier à ce péché-là, puis là, on tombe dedans. Puis, on ne laisse pas Christ en nous, l'espérance de la gloire, s'occuper de ce péché-là. Donc, lorsque j'ai une tentation, je la confesse comme si je me l'étais déjà appropriée, puis j'étais déjà tombé, je n'ai pas compris ce que Dieu s'attend de moi. Dieu s'attend de moi que lorsque la tentation, le péché se présente, que je fais simplement me tourner vers lui, je me jette dans ses bras. C'est la sortie de secours. J'ai de la misère à comprendre un Corinthiens 10-13 avec lequel on a commencé. C'est pas compliqué. Le moyen d'en sortir, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est lui qui nous donne la victoire. Et donc, oui, le péché est présent dans nos vies, mais à bien plus forte raison, Dieu est présent dans nos vies. Au moment où est-ce qu'on se sent au plus faible, on se sent donc misérable, puis notre pensée nous rattrape, puis on a la honte, puis tout le bagage qui vient avec. Tu sais, tout ce qui est emmagasiné dans le disque dur, là. Oh, man, il y aurait un méchant ménage à faire. Mais Dieu ne nous regarde pas selon ça. Il ne nous définit pas selon ça. Nous, on le fait. Ça, c'est parce qu'on s'identifie à ce qu'on était. On ne s'identifie pas à ce que Dieu a fait de nous. Et à cause de ça, on tombe à court des attentes de Dieu avec nous. Pourquoi? Parce qu'on lutte par nous-mêmes, on ne fait simplement pas se tourner vers lui par le regard de la foi. Parce que je vous le dis, Dieu est relationnel. Puis il n'a pas enlevé le péché du monde, il n'a pas fait que les chrétiens n'ont plus de péché dans leur vie. Il laisse le péché là, la tentation, pour qu'on se jette dans ses bras, qu'on court à lui, qu'on l'invoque lorsqu'on est face à la faiblesse de notre chair, à l'incapacité de notre volonté puis nos motifs. Et donc Dieu désire que ces passions qui sont dans nos membres, au lieu de nous tirer vers le bas, de nous tourner vers nous-mêmes, nous fasse lever les yeux puis nous tourner vers lui. That's it, comme dirait Bounikou. C'est pas plus compliqué que ça. Savez-vous quoi? Il est la source d'eau vive. Il est celui dont la grâce est suffisante, le Dieu de toute grâce, de toute consolation. Pourquoi on se retournerait sur nous-mêmes? Pourquoi on se laisserait tirer vers le bas par ça lorsqu'on a Dieu qui est là et qui n'attend que de nous consoler, de nous donner la victoire? Ça m'amène à la troisième, pour le message là, mais en tout, c'est les cinq points qu'on a considérés à croire pour expérimenter le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes. Et c'est le point central. J'ai besoin de votre attention pour encore à peu près 5 minutes. J'ai besoin de toute votre attention. Qu'est-ce que je crois concernant la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? Ben, c'est bien beau, là, on a parlé de toutes sortes de choses que Dieu veut qu'on croit, là. Mais qu'est-ce que je crois que c'est la vie chrétienne? Juste pour vous donner un petit indice, là. Ça se peut très bien qu'on tombe dans le piège des Galates, là. Où est-ce que Paul leur dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Mais il leur dit, oh, Galates, dépourvu de sens. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Comment on peut commencer par l'esprit puis être insensé et dire, je vais finir par la chair? Voulez-vous savoir comment? Je vais vous expliquer. Puis savez-vous quoi? Je ne crois pas que c'est les œuvres manifestes de la chair. Je pense que c'est les œuvres raffinées qui paraissent bien de la chair. C'est comme ça qu'on commence par l'esprit puis qu'on finit par la chair. Là, je parle à des enfants de Dieu qui aiment le Seigneur, qui tombent dans un piège qui est tellement répandu, qui répand tellement la mort que c'est un cancer dans le corps de Christ, toutes dénominations confondues. Et je vais vous l'expliquer avec une simple illustration. Je pense que tout le monde va comprendre. C'est un peu moins noble que notre affaire de fontaine de tantôt. On va parler de char. Une batterie de char. Vous savez, dans un auto, ceux qui ne connaissent pas le principe simple d'un auto, il y a bien des affaires dans un auto, là, mais il y a la batterie qui donne le courant pour faire l'étincelle qui va partir le moteur. Puis une fois que le moteur est parti, ben là, il y a l'alternateur, puis là, ça recharge la batterie. OK? Mais la batterie, si mettons que je ne prends pas mon auto, si je fais juste mettre mon auto à on, je suis capable de faire des choses avec la batterie. Je suis capable d'allumer les lumières, je suis capable de mettre la musique, je peux faire aller les wipers. Quelqu'un me voit dans mon auto, puis... Mais ça arrive, là, ceux qui ont des petits-enfants, là. Tu sais, quand t'arrives, puis que là, t'ouvres l'auto, puis là, tout se met à marcher, là. Ben, c'est ça. La batterie était peut-être pas on, peut-être qu'elle l'était, mais c'est ça. Il a toutes mis les fonctions, puis là, ben, c'est la batterie qui fait ça, OK? Mais avoue que le but d'un auto, c'est pas que les lumières marchent, que les wipers, ils marchent. Le but d'un auto, c'est d'avancer. Le but d'un auto, c'est de nous amener d'un endroit à l'autre. Et pour ça, nous avons besoin de quelque chose qu'on appelle le moteur. Là, on va faire un parallèle. La batterie dans ma vie chrétienne, c'est ma volonté. OK? Avec ma volonté, je suis capable de faire bien des choses. Je suis capable de lire ma Bible, je suis capable d'aller à l'église, je suis capable de témoigner, je suis capable de faire bien des affaires. Mais, je vais être comme un auto dans son parking, faire aller tous les accessoires, mais qui ne va pas nulle part, si je ne suis pas connecté à Christ, ma vie. Et malheureusement, on a beaucoup d'activités chrétiennes, de chrétiens qui sont dans le parking à faire toutes sortes de simagrées, mais ils ne vont pas nulle part. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une volonté. OK? Dieu nous a donné une batterie. Mais la batterie en tant que telle, seule, elle n'est pas faite pour marcher dessus. Qu'est-ce qui arrive à une batterie? Maintenant là, que moi, dans ma vie, là, mon auto, je m'en sers pour, tu sais, une fois par jour, je m'en vais dans mon parking, j'écoute la musique, je fais marcher un peu les clignotants, puis les essuie-glaces. Puis... Bon, ben au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui va arriver? Ma batterie va être à terre.
OK? Ben, qu'est-ce qui arrive à beaucoup de chrétiens? Ils s'assient dans la vie chrétienne, puis là, ben, ils font ce qu'ils sont supposés faire, tu sais, puis ils ont la volonté de le faire, Seigneur, je t'aime. Puis ils font toutes sortes de choses avec la batterie, mais ils restent dans le parking, ils ne bougent pas d'où ils sont. Pourquoi? Parce que la connexion entre la batterie et le moteur ne s'effectue pas. Là, écoutez, c'est le point le plus important, névralgique, de tous les deux messages des deux dernières semaines. OK? Si la batterie est ma volonté, la clé pour que je connecte avec, tu sais, que le moteur démarre, là, pour que je puisse m'en aller, là, c'est lorsque ma volonté se soumet à celle de Dieu. Ça, c'est là que ça connecte. C'est là que ça... Tu sais, comme on dit, là, avec des films, là, un nouveau film, là, spoiler alert, là, OK? Si vous êtes un comfort freak, là, si vous voulez contrôler les choses, là, désolé de vous le dire, là, mais vous allez être un chrétien batterie, un chrétien à batterie. Hey, on va partir de cette question-là. Si on peut contrôler, on est un chrétien à batterie. Moi, j'ai été un chrétien à batterie très longtemps. Il y a des chrétiens à batterie qui ont, tu sais, qui ont une telle forme puis d'autres, mais dans le fond, c'est tout, ça revient à l'idée. Puis écoutez bien, contrôler parce qu'on a peur. On a peur de laisser Dieu contrôler parce qu'on n'a pas la foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? C'est tellement fondamental ce qu'on voit là. Pourquoi je veux contrôler ma vie? Parce que je pense pas que Dieu est capable de le faire mieux que moi. Ah oui, dans mon cœur, ma nature, je régénère, tout ça, je le crois. Mais là où est la lutte, c'est là où est-ce que, OK Seigneur, c'est pas juste une théorie, c'est pas juste quelque chose que je désire dans mon cœur, je le laisse. Puis là où est-ce que tout est la beauté, c'est quand... J'apprends simplement de même, OK, à dire, Seigneur, moi, j'aurais pas fait ça, ça n'a même pas de bon sens, tu me demandes de faire ci, puis là, on va parler ça, les imaginations, là, ben, si, puis ça, puis ça, puis ça arrive ici. Puis là, on laisse tout ça de côté, puis on va dire, OK, Seigneur, je soumets ma volonté à la tienne. Paf! Il arrive de quoi? Le moteur part, puis là, les choses avancent, c'est pas supposé être de même, puis là, oh là, on se rend compte, hey, c'est ça, la vie chrétienne, il y a quelque chose au bord de la rue, hein, puis là, on découvre la vie chrétienne, parce qu'avant, on pensait que la vie chrétienne, c'était dans un parking. Il y a tellement de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, c'est dans un parking, puis qu'il n'y a pas plus que ça. C'est malheureux, j'ai vécu ça pendant des années, puis à travers les années, le Seigneur m'a ouvert les yeux de plus en plus, puis je sais ce qu'il est en train de faire ici à cette église, et ça, mes amis, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Parce que notre volonté ne peut pas produire la sainteté mais, et la vie. Okay? Ma batterie, là, mais elle peut me connecter à celui qui est saint. Elle me connecte à celui qui est vivant. Puis là, les choses avancent. Avez-vous compris pas mal? Mon message, c'est ça. Là, j'ai des petites remarques pour terminer. Là. C'est écrit conclusion ici. Là. C'est quoi le secret? Puis je vous prépare un peu au message de la semaine prochaine, mais... C'est quoi le secret? Juste rester ouvert, consciemment. Seigneur, remplis-moi. Rester comme ça, de façon consciente et ouverte à dépendre de Dieu, de façon joyeuse et s'attendre. OK, Dieu, là, j'élève mon vase vide, là, puis toi, tu es le Dieu qui le Dieu d'abondance. Je m'attends à ce que tu déverses toutes les richesses de ta grâce sur moi. Tu le fais déjà, je m'attends que tu continues, puis... que ça va déborder. J'ai de la misère à aimer mes frères et sœurs, de la misère à aimer ma femme, de la misère à aimer mes enfants. Mais je veux pas essayer plus fort, je veux pas marcher sur la batterie. Voici comment je vais les aimer plus. Me submerger de ton amour et croire, puis savoir que... Parce que c'est quoi quand j'ai de la misère à aimer? J'ai peur de pas être bien aimé, je vais les aimer plus. J'ai peur, je veux contrôler, non. Je soumets ma volonté à la tienne. Je sais que toi t'aimes bien plus mes enfants que moi-même, mes frères et sœurs que moi-même, ma femme que moi-même. Puis toi, tu vas vraiment faire une bien meilleure job. Donc, j'arrête d'essayer, puis je soumets ma volonté à la tienne. Mes amis, là, ça décolle. Ça décolle, puis c'est plus... Là, c'est complètement un autre game. Puis ce qu'on va voir la semaine prochaine, là, on a vu ce qu'on avait à croire. La semaine prochaine et les suivantes, on va voir qu'est-ce que ça donne dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que ça fait? Parce que Dieu nous appelle à l'obéissance de la foi. Donc oui, on est appelé à croire des choses, mais ça donne à des choses qu'on va faire. Et vous allez voir pourquoi. Et donc,
Es-tu disposé à dire oui à tout ce que Dieu t'envoie et a décidé pour toi? Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile. On a prié pour vous, mes frères et sœurs bien-aimés. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être difficile de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Puis on vous aime, puis on vous garde dans la prière, puis on est avec vous autres. Puis on est content que vous soyez là ce matin. We love you guys. Amen.
Amen.
Mais c'est Dieu qui décide. Puis Dieu fait quelque chose de bon avec ça. Puis on le croit dans le plus profond de notre être. Puis on s'accroche à ça. Et ça, c'est beau. Et donc, ce matin, c'est simplement ceci, mon invitation. Le Dieu qui nous secourt de nous-mêmes, il est tellement proche. Il est tellement vrai. Dieu est concret. C'est pas une imagination dans le ciel. Pourquoi se contenter de vivre sa batterie? Quand le Dieu veut juste connecter avec nous autres puis nous montrer c'est quoi la vraie vie. Ça, ça commence avec Jésus-Christ. Puis il disait, si quelqu'un ici ne connaît pas Jésus-Christ, si la lumière n'est pas allumée, quand on est sauvé, là, la lumière allume. C'est vrai, hein? Avant d'être sauvé, c'était comme on était dans les ténèbres, puis là, paf! On est devenu intelligent du jour au lendemain, puis je parle d'intelligence biblique. Avant, le monde ne faisait pas de sens, je trouvais ça frustrant. Moi, j'étais dans la philosophie, essayer de comprendre l'intelligence que Dieu m'avait donnée, essayer de faire un sens de ce monde-là, puis ça ne faisait pas de sens. Puis à gauche, à droite, ça ne marchait pas. Puis quand j'ai vu simplement ce que Dieu nous dit, puis quand, ben en fait, c'est pas que j'ai vu, c'est quand l'Esprit de Dieu en moi, puis c'est comme, je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement instantané là-dedans, tout se met à faire du sens. Ben oui, parce qu'on a rejeté notre Créateur, c'est parce que si vous n'êtes pas encore réconcilié avec ce Dieu bon et vivant, invoquez-le aujourd'hui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et pour les enfants de Dieu, ah, on prend un temps maintenant juste pour aller sous la fontaine. Amen.
Amen.
Seigneur, oui, on te remercie. Tu es la fontaine d'eau vive. Toute grâce, tout don excellent, descende de toi. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On te loue, Seigneur, de ce que tu es le vrai Dieu de toute éternité. Et Seigneur, merci que c'est simple avec toi. Merci que toutes ces choses qui concourent à notre bien, tu es notre bien. C'est pour nous amener à toi, toujours te découvrir, se confier en toi et te faire confiance, Seigneur. Brise dans nos vies cette propension à vouloir faire notre volonté, ce péché en nous. Et Seigneur, on veut vraiment s'abandonner à ta volonté, prendre notre envol comme les aigles, parce que la vie chrétienne, la vie de grâce, c'est surnaturel, c'est merveilleux. On en a soif, on en soupire, Seigneur. Et merci que tu nous fais goûter, Seigneur, comment tu es bon. Mais on sait que c'est pas fini, tu es tellement grand et infini. On veut toujours plus de toi, notre Dieu. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.